France Inter.
Bonjour à tous. L'agresseur présumé du maire d'un village de l'Isère, interpellé après une cavale de 48 heures. Il est soupçonné d'avoir attaqué l'élu à l'arme blanche et de l'avoir grièvement blessé. Le choc à Gaza et à l'international après la présentation du plan qu'Israël a prévu pour l'enclave palestinienne. La prise de contrôle de tout le territoire, l'occupation militaire et des millions de réfugiés déplacés, affamés, complètement désemparés de cette nouvelle surenchère, vous l'entendrez. Après la censure du volet le plus décrié de la loi Duplomb, que va devenir la mobilisation, celle des opposants au texte, d'un côté galvanisée par la décision du Conseil constitutionnel, et celle des agriculteurs de l'autre? Comment vont-ils rebondir? La vigilance reste de mise dans l'Aude alors que l'incendie est fixé. La reprise des feux est tout de même possible au vu des fortes chaleurs qui s'annoncent. Nouvelle vague caniculaire qui va s'étendre sur la France ces prochains jours. Entre bataille d'eau pour rafraîchir les enfants en colo et retour en force des éventails pour se donner un peu d'air, tous les moyens sont bons pour faire baisser la température. Et puis le foot professionnel fait sa rentrée, reprise du championnat national ce soir. Le club de Caen, relégué, a des envies de revanche et pourra compter sur les bonnes idées d'un de ses actionnaires, un certain Kylian Mbappé.
France Inter.
Il faut stopper immédiatement ce plan israélien pour Gaza. Voilà la vive réaction de la communauté internationale après la validation par Israël du projet de son premier ministre. Benjamin Netanyahou compte bien prendre le contrôle militaire sur toute l'enclave palestinienne. L'ONU s'inquiète, Londres, la Turquie, la Chine s'alarment d'une erreur qui risque d'entraîner davantage de massacres. Paris n'a pas encore réagi. Quant à l'Allemagne, elle suspend les exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza. Et alors que ces voix protègent à l'international, celle des Gazaouis s'interroge. 2 millions de déplacés sont déjà réfugiés sur une toute petite partie du territoire. Parmi eux, Ahmed, avec lequel vous avez pu échanger, Alice Moreno.
Ahmed est resté éveillé toute la nuit, accroché à son téléphone. Il a découvert la décision d'Israël au petit matin.
Ça a été un choc pour nous, parce qu'on pensait que l'opération se terminerait bientôt. Je pense que nous en avons eu assez. Gaza n'en peut plus.
Ce père de famille, réfugié à Al-Mawasi, ne voit pas comment les habitants de Gazaville vont pouvoir être accueillis dans le camp.
Les tentes sont déjà les unes à côté des autres. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ce sont des tentes au milieu du désert.
Il rappelle que les Gazaouis, à bout de force, affamés, ne peuvent pas se déplacer une fois encore.
Personnellement, j'ai été contraint de me déplacer plus de 15 fois. Cela demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Sous les bombardements, les frappes aériennes, ils ne donnent pas d'occasion aux gens de se déplacer en sécurité.
À terme, il redoute bien sûr les assauts d'Israël qui veut s'emparer de tout le territoire.
Nous souffrons, vraiment. Nous avons un futur inconnu. J'ai toujours peur de ne pas me réveiller le jour suivant. Je regrette de m'être marié et d'avoir eu un fils. Ils ne méritent pas de vivre ça.
L'évacuation de Gazaville pourrait durer 2 mois avant l'offensive totale de l'armée israélienne.
Gazaville, premier objectif d'Israël dans la mise en place de son plan pour l'enclave palestinienne. Plan qui sera donc très long à réaliser. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour.
Très long mais aussi très compliqué à mettre en place.
Oui, vous l'avez entendu, la première chose à faire pour réaliser un contrôle opérationnel sur la ville de Gaza, c'est d'abord de transformer toute la zone urbaine en une zone d'opération. Et pour ce faire, il faut d'abord en évacuer tous les civils qui sont concentrés entre 800 000 et 1 million de personnes. Alors déplacer 1 million de personnes, c'est déjà une opération très très lourde. Il faut non seulement faire bouger ces personnes physiquement, a priori vers le sud de l'enclave, mais aussi leur trouver un point de chute. Il faudra sans doute imaginer un autre camp géant de déplacés au-delà de celui d'Al-Mawasi et de ceux de Deir el-Balad qui concentrent déjà près de 900 000 personnes. Il faudra ensuite assurer la fourniture d'aide humanitaire à toutes ces personnes, de l'eau, de la nourriture, des soins pour 1 million de personnes. On imagine le casse-tête logistique. Le plan d'opération dessiné cette nuit prévoit l'évacuation complète de Gazaville pour le 7 octobre. C'est seulement ensuite que les opérations militaires pourront débuter. Cité ce matin par la chaîne israélienne Channel 12, le chef d'état-major des armées, le général Eyal Zamir, estimait qu'il lui faudra 5 mois de combats intensifs, particulièrement dans la zone de Gazaville, pour réduire substantiellement les forces du Hamas. C'est une campagne militaire qui s'annonce et qui pourrait durer jusqu'au printemps prochain.
Et le Hamas, qui de son côté a réagi à ce plan d'Israël, il dénonce un nouveau crime de guerre et prévient qu'il coûtera cher à Israël. Le Hamas qui affirme que cette décision d'Israël signifie le sacrifice des otages. Les présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan réunis aujourd'hui pour signer un accord de paix après des décennies de conflits autour du territoire du Haut-Karabakh. La ratification de cet accord doit se faire à Washington sous l'égide de Donald Trump. Il veut poser en artisan de la paix, mais il a en réalité des intérêts très personnels en jeu dans cet accord. Rosalia MacArthur, bonjour.
Bonjour.
Il lui permet, cet accord, d'avoir la main mise sur un corridor très stratégique dans la région.
Le texte prévoit notamment que les États-Unis obtiennent des droits d'aménagement sur ce corridor de 43 km situé en territoire arménien. Ce projet, appelé corridor de Zanguezour par l'Azerbaïdjan, fait face à de multiples blocages depuis des années en raison de sa position stratégique. Le corridor relierait l'Azerbaïdjan à son enclave frontalière de la Turquie, son allié, en traversant l'Arménie. Les routes de l'énergie entre le Moyen-Orient et l'Europe pourraient donc passer par cette artère. Le corridor a été rebaptisé sobrement « Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale ». Le président américain y voit une occasion pour les États-Unis de s'installer durablement dans le Caucase au moment où la Russie est absorbée par la guerre en Ukraine et où l'Iran, voisin opposé au projet, est occupé par d'autres défis. Ces derniers jours, Téhéran a néanmoins multiplié les avertissements à l'égard des pays qui cherchent à obtenir un corridor terrestre en Arménie, assurant qu'il se heurterait à une réponse ferme de l'Iran.
Et Donald Trump qui rencontrera aujourd'hui les deux présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, d'abord séparément, puis qui les réunira pour une cérémonie de signature. Le chef d'État américain qui dans le même temps se prépare à rencontrer le président russe, Donald Trump s'est dit être prêt à voir Vladimir Poutine malgré son refus de rencontrer ou même de convier Volodymyr Zelensky pour un sommet à trois sur l'issue de la guerre en Ukraine. Au moins 10 morts et 33 disparus après des inondations soudaines en Chine au nord-ouest du pays, inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ne s'arrêtent pas depuis hier et qui ont conduit subitement à des crues ces dernières heures.
France Inter, le journal de 13h, Flore Catala.
13h07 sur Inter. Il était activement recherché depuis deux jours après la violente agression du maire de Villeneuve-sur-Marc en Isère. L'homme soupçonné d'avoir gravement blessé l'élu à l'arme blanche dans sa commune mercredi a été interpellé ce matin. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Il a donc été interpellé sans violence aujourd'hui, Marion.
Oui, une interpellation sans difficulté aux alentours de 11h30. C'était sur la voie publique dans le village de Charentonnet, à une dizaine de kilomètres de Villeneuve-de-Marc, donc dans le secteur du village où s'est déroulée l'agression. Mercredi, un peu avant 17h, l'homme frappe à l'arme blanche le maire Gilles Dussault, deux coups au niveau du thorax, possiblement avec un tournevis. Il donne également des coups de poing au fils du maire qui est là et il tente de les renverser avec sa voiture avant finalement de s'enfuir à pied. Sur son profil, on sait qu'il s'agit d'un ingénieur automobile chez Valeo et il avait un litige d'urbanisme avec le maire. Ce suspect est donc désormais en garde à vue. Le parquet de Grenoble ouvrira ensuite une information judiciaire. Le maire de Villeneuve-de-Marc, Gilles Dussault, a été entendu hier par les enquêteurs. Ses blessures ont entraîné 15 jours d'incapacité totale de travail.
Marion Aquilina, service police-justice d'Inter. C'est un coup d'arrêt prononcé, acté pour la loi du plomb et sa mesure la plus polémique, mais sûrement pas la fin du combat entre opposants et défenseurs de ce texte. Partiellement retoqué hier par le Conseil constitutionnel, les sages ont en effet rejeté la mesure portant sur la réintroduction de l'acétamipride, mais ils n'ont pas censuré d'autres volets de la loi. Des dispositions contre lesquelles les associations environnementales comptent bien continuer à se mobiliser. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Plusieurs mesures froissent encore les associations et les ONG opposées au texte.
Car elles vont continuer à favoriser une agriculture productiviste, un modèle obsolète, dénoncent ces ONG, avec notamment la possibilité pour les très grosses exploitations de continuer à s'agrandir. Thomas Utayakumar est le directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation pour la Nature et l'Homme.
C'est le fait de pouvoir continuer à agrandir des élevages qui sont déjà très gros et qui aujourd'hui ne concernent que 2 à 3% des éleveurs. Le deuxième point, c'est aussi la séparation vente-conseil, dans lequel on permet à des distributeurs de phytosanitaires d'avoir la double casquette vendeur et conseiller. C'est un conflit d'intérêts majeur. Et puis enfin, sur les bassines, il y a eu des réserves de la part du Conseil constitutionnel, mais elles vont pouvoir être mises en place sous réserve de leurs recommandations.
Des bassines qui, malgré le fait de pouvoir porter atteinte à l'environnement, peuvent être installées au nom de l'intérêt général, à condition de ne pas puiser dans certaines nappes, précisent les sages. Cette loi reste calibrée pour une minorité, ne répond pas à la crise structurelle du monde agricole, dénoncent encore les associations.
Et la lutte des défenseurs de l'environnement, tout de même galvanisée par la décision du Conseil constitutionnel, alors que chez les agriculteurs, on digère comme on peut ce revers. Bonjour Marie-Amel Curdi.
Bonjour.
Au sein des organisations syndicales agricoles notamment, l'idée d'un retour des actions et d'une remobilisation bruise déjà.
Oui, il pourrait bien y avoir un acte 3 des mobilisations agricoles. Les responsables de l'Alliance syndicale majoritaire, FNSEA-JA, promettent des actions dès la rentrée. Il s'agira de faire pression pour trouver, je cite, un véhicule législatif qui permette une dérogation sur l'acétamipride. Même chose du côté de la coordination rurale. Patrick Legras, son porte-parole national, le répète, il n'est pas normal, selon lui, que cet insecticide soit interdit en France alors qu'il est utilisé ailleurs en Europe.
C'est une catastrophe pour l'agriculteur de base aujourd'hui. Il y aura des actions de fête à la fin du mois et début de septembre, j'espère de façon asyndicale, parce que là, en fait, c'est tous les agriculteurs qui souffrent. Étant donné que le Conseil constitutionnel, qui sont des grands sages, nous ont dit qu'il fallait manger bien, manger propre, on va s'occuper du dossier au sein des grandes distributions et on va sortir tout ce qui ne convient pas. Et j'ai peur qu'il y en ait beaucoup, puisqu'on importe plus de 50% de notre nourriture.
Délocaliser nos productions, je ne m'y résous pas, réagit la ministre de l'Agriculture. Annie Genevard entend poursuivre, dit-elle, le travail auprès de la Commission européenne pour harmoniser les règles d'usage de pesticides en Europe. Elle souhaite, comme les principaux syndicats agricoles d'ailleurs, que les décisions sur ce sujet soient prises au niveau européen et non plus français. Pour les filières en difficulté comme la noisette, elle a demandé à l'INRAE d'identifier les productions en danger. Enfin, elle appelle à un sursaut de patriotisme alimentaire, en clair, à consommer français.
Voilà, des manœuvres du gouvernement pour continuer à soutenir les agriculteurs alors que le Premier ministre François Bayrou a réagi à cette décision du Conseil constitutionnel. Il rappelle que cette décision n'est susceptible d'aucun recours et qu'elle s'impose au pouvoir public et à toutes les autorités administratives. Le taux de chômage stable en France. Il se maintient à 7,5% au deuxième trimestre comme au précédent, d'après l'Institut national des statistiques. Un taux légèrement supérieur à son point le plus bas depuis 1982 qui s'établit, lui, à 7,1%. Les pompiers mobilisés dans l'Aude vont pouvoir compter sur la météo pour tenter de prendre le dessus aujourd'hui sur l'incendie géant et meurtrier contre lequel ils luttent depuis 3 jours. Le feu est fixé, il ne progresse plus et le temps a viré à la bruine ce matin. De quoi aider à maîtriser les flammes, mais attention au risque de reprise du feu avec les fortes chaleurs annoncées pour les prochains jours. Erwan Chassin.
À Fabrezan, tout est encore prêt pour accueillir les pompiers et les personnes évacuées ici dans cette salle des fêtes reconvertie en lieu d'accueil. Aujourd'hui, c'est plutôt calme, en apparence seulement.
Un épisode caniculaire débute sur l'ouest de notre région. Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants.
La maire de Fabrezan, Isabelle Géapéry, vient tout juste de recevoir ce message de la préfecture.
Donc ça n'arrête pas, mais bon, il faut rester debout. Hein. Bon, le feu est fixé, c'est déjà une bonne chose. Après, bon, je pense qu'effectivement les pompiers vont rester sur le secteur, donc on croise les doigts. Le maître mot, c'est prudence, voilà.
Ouais. Néanmoins, dans ce centre d'hébergement d'urgence, l'annonce de ce feu fixé, c'est le signal pour Vincent qu'il va pouvoir rentrer chez lui dans la commune sinistrée de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, retrouver une vie normale.
C'est la panique depuis 2 jours, mais là, ça commence à aller vraiment, vraiment mieux, quoi. Les gens repartent travailler, la vie reprend à fond, donc c'est bon, ça fait du bien, ouais. Tout est positif, donc il n'y a plus qu'à espérer que, voilà.
Ici, les sinistrés et les élus ne cessent de répéter cette phrase. Feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Près de 2000 pompiers d'ailleurs restent mobilisés avec leurs 600 engins pour s'attaquer au point chaud à l'aube d'une nouvelle canicule.
L'Aude placée donc en vigilance orange canicule dès demain, comme 15 autres départements, alors qu'ils sont 11 aujourd'hui à être en alerte. Et cette vague de chaleur, elle a aussi des conséquences sur la circulation des trains. La SNCF supprime plusieurs allers-retours sur des lignes entre Bordeaux, Marseille, Paris, Limoges, Toulouse et Clermont, des lignes où circulent des trains non équipés de climatisation. La chaleur avec laquelle il va falloir composer ces prochains jour, puisque la vague caniculaire, on le disait, risque de s'étendre à une large partie du territoire, d'après les prévisions de Météo France. Attention aux populations les plus fragiles, les personnes âgées bien sûr, mais aussi les enfants. Dans les colonies de vacances, on s'adapte comme on peut à la hausse des températures. Reportage dans les Landes, près de Dax, à Cassin, où le domaine Equiland accueille plus de 150 enfants. Antoine Brard.
Parce qu'avec ces températures entre 35 et 40 degrés, un mot ressort fréquemment de la bouche des enfants.
Il fait quand même assez chaud. Pendant les activités qu'on a, nous, on a extrêmement chaud.
Mais hors de question de ne pas s'amuser. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle.
Les animateurs sont très cool, ils nous laissent faire des jeux d'eau. On nous mouille avec des petits pistolets à eau, même quand on n'en a pas envie, c'est marrant.
Des jeux qui poussent les animateurs à se mouiller, eux aussi. Marion n'a pas d'autre choix que de subir d'innombrables lancers de seau d'eau.
Ah ben ça, oui, forcément, parce qu'ils nous adorent en fait. Les enfants nous adorent.
j'adore. Et puis, c'est leur manière de défouler un peu sur nous, quoi.
Parmi les activités proposées, motocross, équitation ou même skate, avec quelques aménagements, on arrive à les maintenir. Raphaël Dayan est le directeur du site Equiland de Cassin.
On a un skatepark, mais on a aussi un chapiteau qui a l'ombre, qui est plat, par exemple. La moto, ils peuvent aller sur un terrain plat qui est plein soleil, mais ils peuvent évidemment aller en forêt aussi sur des espaces ombragés. Comme je vous disais, on adapte les heures parce qu'on voit que jusqu'à 11h en ce moment, ça reste quand même des températures qui restent raisonnables pour faire de l'activité.
Il y a aussi les incontournables. Crème solaire et casquette sur la tête sont obligatoires. Les enfants ont accès à des gourdes d'eau fraîche en permanence. Et puis s'il n'y a pas la plage, il y a au moins la piscine que tout le monde convoite. Chaque jour, tous les enfants ont la possibilité d'y passer au moins une heure pour se rafraîchir.
Reportage Antoine Bras, récit Gascogne pour France Inter. Mais quand on n'a pas de piscine, comment faire pour se rafraîchir face aux températures caniculaires? Eh bien, un accessoire signe son retour en force à l'heure des chaleurs étouffantes. Petit, pratique, chic même. L'éventail connaît un gros regain de popularité dans la rue, les transports sous le soleil. Vous l'avez constaté à Lyon, Christophe Vincent.
Place Bellecour, plombée par la chaleur, on repère vite l'accessoire du moment.
J'ai pris ça en Espagne, en fait, où les gens avaient beaucoup leur éventail avec eux, j'ai trouvé ça bien et j'ai copié.
C'est ma maman qui aime beaucoup les éventails, donc elle en a plein, donc je lui en prends. Ça revient à la mode.
À Champagne-au-Mont-d'Or, Vera Pilot crée des éventails depuis 20 ans, 300 modèles en bois et tissu. Les ventes ont augmenté de 40% en un an, avec les canicules répétées et grâce à une clientèle plus large.
On a beaucoup, beaucoup de jeunes et on a aussi tous les hommes qui pensaient utiliser un accessoire féminin, mais qui en fait se rendent compte qu'ils ont aussi chaud. Et donc, on a beaucoup d'hommes maintenant, avec des formats pour hommes, des coloris pour hommes. Donc la clientèle s'est vraiment diversifiée et ouverte.
Une clientèle soucieuse de l'environnement.
On vend du vent, et le vent n'a pas de prix quand il fait très chaud. C'est une clim qui ne pollue pas, qui ne s'use pas. Il a encore beaucoup d'avenir, notre accessoire. Pour, entre autres, respecter cette petite planète qu'on adore tous, mais qui a besoin de choses légères et qui ne l'abîment pas. Donc, l'éventail.
Et un éventail de couleurs et de prix, entre 25 et 130 euros la pièce.
Un reportage signé Christophe Vincent. La fin des vacances a sonné pour le foot français. La saison redémarre ce week-end. Retour de la Ligue de demain et dès ce soir, reprise du championnat de national. La troisième division qui compte cette année dans ses rangs, le club de Caen, le Stade Malherbe, habituellement pensionnaire de Ligue 1 ou Ligue 2, relégué en fin de saison dernière, malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, alors pas comme joueur, mais comme actionnaire majoritaire du club, avec un objectif pour la saison, Jean-Pierre Blimeau, la reconstruction.
Au pays de Guillaume le Conquérant, l'heure n'est pas à la morosité mais à la reconquête, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. À Caen, le clan Mbappé, qui contrôle désormais le club, ne parle pas de remontée immédiate en Ligue 2, mais la priorité est de tourner la page. Le nouvel entraîneur, Maxime Dornano, l'a confirmé pendant les matchs de préparation.
On sait évidemment où on met les pieds. Maintenant, que ce soit moi ou les nouveaux membres du staff, les nouveaux joueurs, on doit amener de la fraîcheur par rapport à ça et pas toujours ressasser ce qui s'est passé l'année précédente et puis faire en sorte de regagner les matchs.
Aujourd'hui, les supporters ne veulent pas mettre trop de pression, mais Christophe Vossel, dit Olaf, président et fondateur du Malherbe Normandie Cop, attend tout de même un rebond.
Même si notre équipe elle a encore des manques, qu'elle n'est pas encore prête et qu'il n'y a pas tous les joueurs qui sont à 100% et des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, voilà, il y a quand même des attentes et il faut qu'ils répondent à ces attentes.
En fin de saison dernière, près de 15 000 supporters se pressaient encore dans les tribunes pour soutenir une équipe en perdition. L'attente est donc très importante, mais n'effraie pas le coach Maxime Dornano.
C'est même là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il vaut mieux aller dans un club où il y a de l'attente que dans un club où tout le monde s'en fout.
On vous laisse travailler tranquillement.
Bien sûr, oui, évidemment.
Depuis Madrid, Kylian Mbappé continue de faire confiance à son clan qui travaille toujours pour ajuster un effectif amené à bouger jusqu'à la fin du mois.
Et premier rendez-vous ce soir donc avec le coup d'envoi du championnat national à 19h30. 5 rencontres au programme dont le match Caen-Aubagne. La météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
On le disait dans ce journal, les températures sont caniculaires dans le sud cet après-midi.
Et on observe déjà des pointes régulièrement à 33, 34 degrés autour du Massif central et en vallée du Rhône. Et ça va continuer à monter cet après-midi. Les maximales au-delà de 35 degrés seront généralisées dans les terres de la moitié sud, avec jusqu'à 37, 38 du sud-ouest au Lyonnais et à la vallée du Rhône. Saône, voire 39 degrés. La chaleur sera plus modérée au nord avec 26 à Lille, 28 à 33 depuis le centre-Bretagne jusqu'en Alsace et bien sûr nettement moins sur les côtes. 11 départements sont déjà en orange et vous l'avez déjà dit, une bonne quinzaine d'autres devraient les rejoindre pour demain dans le sud en attendant une généralisation dimanche dans la moitié sud de cette canicule. Alors côté ciel, ça se passe évidemment quasiment partout sous le soleil, deux nuances quand même et une de taille dans le nord-ouest avec un ciel encore assez nuageux cet après-midi de la Bretagne au nord du bassin parisien jusqu'à la Belgique et même très chargé près de la Manche. Et puis de l'autre côté, les entrées maritimes encore généralisées ce matin dans l'Aude et en Roussillon qui ont fait du bien sur le front de l'incendie sont en train de régresser. Elles traîneront sur le littoral cet après-midi.
Olivier Proust de Météo France, merci.